La commande qui m'a été passée, effectivement, consiste à résumer en une heure ce qu'est l'objet de cet enseignement que je viens de commencer là dans le master formation de formateur et qui en dure 14. Ça situe par avance l'état de frustration dans lequel je vais vous laisser ou au contraire d'agacement, je sais, on verra. Quel est le raisonnement que j'essaye de soutenir et qui est en discussion entre les collègues formateurs de l'ESPE et qui a conduit l'équipe de Marc, de Sylvie, d'Evald à me demander d'intervenir ce soir. Au fond, un raisonnement qui part de cette première, ce premier postulat, au sens où je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour l'étayer. Je vais considérer que les évolutions contemporaines, récentes, des professionnalités enseignantes ont progressivement déplacé la focale d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, pour dire les choses dans des termes économiques. En d'autres termes, un prof, il faisait bien son boulot si il avait offert aux élèves ce que la République lui demandait qu'il offre aux élèves. Si son offre de formation, son offre d'enseignement était, conforme à ce que les programmes prévoyaient en termes de contenu, la plupart du temps avec une vraie liberté de méthode, mais en tout cas permettant à tous les élèves qui le pouvaient, qui le voulaient, de se saisir d'un certain nombre de contenus. Et quand il avait bien fait son travail, il avait offert à tous la possibilité d'apprendre. Après, il y avait des élèves plus ou moins courageux et plus ou moins intelligents. Pour les plus ou moins courageux, il avait un certain nombre de méthodes plus ou moins coercitives pour les rendre un peu plus courageux s'ils n'étaient pas assez. En gros, la carotte et le bâton. Pour inciter les élèves à se casser la tête et à faire les efforts d'apprendre. Lui, il offrait, il incitait les élèves à être attentifs et à apprendre, et puis après, chacun selon ses possibilités. Et puis, quand ça marchait pas bien, on disait « Oh, le petit, il n'est pas fait pour l'école. » Et puis, c'est peut-être pas très grave, à un moment de Trente Glorieuses, où il y a le plein emploi et où le fait de sortir sans qualification, finalement, n'est pas du tout un problème, puisqu'il n'y a pas de lien très très étroit. Il va aller travailler au champ, il va aller travailler à l'usine, il va. Quand émerge la notion d'échec scolaire, elle émerge évidemment en rapport avec un contexte socio-économique d'une élévation du niveau de qualification générale, d'une nécessité d'avoir un plus grand nombre d'élèves qui accèdent à des études secondaires, et à un moment où, justement, la qualité des apprentissages scolaires va déterminer beaucoup l'insertion sociale, et où ceux qui échouent à l'école, et la notion d'échec va apparaître, sont aussi ceux qui vont échouer socialement à s'insérer, notamment dans l'univers du travail. Et donc, progressivement, là, on va dire aux enseignants qu'il ne suffit pas qu'ils aient bien fait le programme, c'est qu'on va s'assurer que les élèves ont bien acquis les savoirs, les connaissances, les compétences qui relèvent de ce programme. Et c'est là où je parlais de... On va passer d'une logique d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, c'est-à-dire, on va dire aux profs, il faut que vos élèves, que tous vos élèves, maîtrisent un certain nombre de choses. Et évidemment, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, ça dépasse très largement ces questions d'alternance. On voit bien que c'est nos sociétés, on va dire, occidentales industrialisées qui sont de plus en plus confrontées à ces questions-là. D'une part, de voir que ça coûte très très cher d'avoir une petite minorité d'élèves très peu qualifiés, voire pas qualifiés du tout. Ça coûte très cher économiquement, socialement, symboliquement. Et que on va faire des efforts pour essayer de réduire cette part d'élèves dont on disait avant qu'ils n'étaient pas faits pour les études et que ce n'était pas bien grave. D'autre part, on va définir ce qu'on va appeler un socle de connaissances et de compétences. et je pense que c'est exactement cette logique-là qui est derrière le socle. On a discuté cette notion, et elle a été beaucoup raillée ou caricaturée, autour de cette idée que ça aurait été une visée d'appauvrissement des contenus, de viser un savoir minimum, un peu plus petit dénominateur commun, finalement peu ambitieux. Moi, je crois que si on lit bien les textes fondateurs, ceux qui les ont précédés, hein, y compris en relisant Giscard d'Estaing, d'ailleurs, mais après les lois dites loi Fillon, puis la loi de rénovation de l'école, elles disent toutes la même chose. Elles ne parlent pas simplement d'un socle au sens minimal du terme, elles parlent d'un socle au sens d'un minimum garanti. Et c'est évidemment autour du garanti que se pose la question, je dirais, de ce que je considère comme l'actualité des évolutions de la professionnalité enseignante. C'est qu'aujourd'hui, on dit aux profs, vous ne laissez personne sur le bord du chemin. Aux États-Unis, ils en ont fait une loi organique en 2001. No child left behind. C'est ça, hein. C'est nos systèmes éducatifs ont pour mission de ne perdre personne en route. Et comme c'était déjà pas simple comme ça, on généralise la logique de l'école inclusive et on dit, et en plus, vous ne perdez pas non plus ceux qui sont porteurs de handicap lourd, etc. Vous ne perdez personne. Personne. Et donc oui, je crois qu'autour de ça, il y a des tensions, des pressions, des enjeux qui se redistribuent et qui font que de plus en plus, la question du professionnalisme va se déplacer, non pas sur le fait de maîtriser les notions qu'on enseigne, mais de maîtriser les mécanismes qui permettent aux élèves de se les approprier, ces notions. C'est ce que j'appelle devenir un spécialiste des apprentissages, et pas seulement un spécialiste des contenus. Et ça, peu ou prou, que ce soit à la maternelle ou que ce soit au lycée, la question, elle est posée de plus en plus dans ces termes de permettre à tous les élèves d'acquérir les compétences qui sont au programme. C'est par rapport à ça, si vous voulez, que moi je définirais une des caractéristiques de ces évolutions de la professionnalité enseignante. Il y en a évidemment bien d'autres. On pourrait parler des relations avec les familles, on pourrait parler du rapport à l'évaluation, on pourrait parler de plein de choses, mais je vais construire tout mon propos autour de ce premier postulat. Parce qu'évidemment, il va avoir une série de conséquences que je vais aussi peu discuter, mais que je vais quand même énoncer. C'est que je pense que du coup, le travail du formateur consiste, là encore, non seulement à apporter des connaissances éventuellement sur des contenus d'enseignement, mais bien des connaissances sur les apprentissages scolaires, sur cette activité des élèves qui leur permet d'acquérir les fameuses compétences dont je parlais tout à l'heure. Apporter des connaissances sur les apprentissages et évidemment sur les conditions favorables à ces apprentissages, ça s'appelle généralement de la pédagogie. Comment on s'y prend pour que les élèves acquièrent bien les connaissances visées. Donc, des connaissances sur les apprentissages et des connaissances sur les conditions favorables aux apprentissages. Voilà. Ça me paraît être dans le cahier des charges d'un formateur aujourd'hui. Ça ne l'épuise pas, mais c'est au cœur. Ça veut dire, et je poursuis le raisonnement, qu'il faut aussi donc disposer de connaissances sur les pratiques pédagogiques les plus favorables aux apprentissages des élèves. Je les ai appelés efficaces. Alors, vous pouvez mettre des guillemets à efficace, mais on va convenir qu'on parle de quelque chose qui est évaluable en termes de compétences des élèves. En gros, les élèves ont acquis les compétences visées, ou en tout cas les compétences évaluées. De ce point de vue-là, on peut dire qu'une pratique est plus ou moins efficace selon que les élèves ont plus ou moins bien appris ce qui était à apprendre, en tenant compte de leur état initial. Parce que quand on essaye de mesurer de l'efficacité des pratiques, évidemment, on ne mesure pas qu'un état final, on mesure le différentiel entre l'état final et l'état initial. Ce qui a été rendu possible par l'activité d'enseignement. On est d'accord. Donc on va garder ce « efficace-là » comme point de repère, en considérant que de nombreuses recherches visent à identifier précisément les pratiques les plus efficaces. du coup, les pratiques les plus recommandables. Puisque c'est ça, le raisonnement. C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on recommande à nos jeunes collègues de faire, ce qui, d'une certaine manière, a fait la preuve d'une certaine efficacité. Alors évidemment, généralement, on témoigne de sa propre expérience personnelle, et il me semble que le moins qu'on puisse attendre d'un formateur, c'est de ne pas en rester à sa propre expérience personnelle, mais d'être capable de capitaliser l'expérience d'un métier et l'expérience venue de recherches qui ont inventorié des pratiques elles-mêmes plus ou moins efficaces. Voilà le mode de raisonnement que je vous propose. Alors, en sachant que ce mode de raisonnement, il est un mode très international, les anglo-saxons appellent ça « best practices » parce que, en fait, excusez-moi pour l'accent, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas la pudeur des francophones qui parlent de « bonnes pratiques ». Les anglo-saxons, ils parlent de « best ». Et si c'est « best », ça veut dire qu'elles sont meilleures. Et si elles sont meilleures, ça veut dire qu'elles sont meilleures que d'autres. Ça veut dire qu'on est dans une logique de comparaison. Clairement. Alors, cette logique de comparaison, des manières de faire qui seraient meilleures que d'autres, évidemment, elle pose d'énormes questions méthodologiques pour comment on arrive à établir la qualité de pratique quand il y a autant de facteurs qui bougent en même temps. Et là, évidemment, il faudrait que je développe des tas de choses sur les aspects méthodologiques de ces recherches. Mais il faut que vous sachiez que partout dans les pays industriels occidentalisés, là, cette logique des evidence-based policies, c'est-à-dire des politiques éducatives basées, fondées sur la preuve, c'est le standard, on va dire, international qui est en train, via l'OCDE, via les grands organismes, de, piloter au-delà des identités nationales et des prérogatives nationales, qui est en train de piloter, quand PISA structure un marché de l'évaluation, il structure bien plus qu'un marché de l'évaluation. Il structure aussi un marché de l'offre et de la demande de formation. Alors, derrière cette logique-là, vous voyez qu'il y a le meilleur et le pire, pour dire les choses très clairement. Bien sûr qu'on ne peut que se réjouir que l'activité de formateur soit nourrie de données, on va dire, bien documentées, empiriques, de choses solides, qu'on sorte un peu de « moi je crois, je connais des gens qui, j'ai la conviction intime de, et j'ai vu des enfants qui ». Qu'on sorte aussi des idéologies, qui sont pour le coup très peu référés à des fondements empiriques, qu'on aille vers des données de plus en plus solidement étayées par des données rationnelles, ça paraît quand même de l'ordre d'un bon sens et de quelque chose que tout le monde ne peut que souhaiter. Évidemment, l'autre versant de la médaille, c'est que c'est aussi une manière de prendre la main avec des indicateurs économiques sur des manières de piloter les systèmes éducatifs qui peuvent conduire à des choses assez sinistres et assez caricaturales. C'est notamment un mode de gouvernance de la recherche en éducation, parce qu'aujourd'hui, pour obtenir des financements pour une recherche en éducation, il faut en gros avoir un plan expérimental qui permet de donner des résultats en termes de données statistiques probantes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de monter un plan expérimental avec une condition A comparée à un groupe témoin, et des tests statistiques qui permettent d'établir la supériorité, on considère que c'est pas sérieux, que c'est pas de la recherche en éducation, que c'est de l'idéologie, et que c'est ça qui fait le lit de l'effondrement du désastre scolaire. Autrement dit, ce mode de raisonnement peut aussi conduire à un mode de pilotage de la recherche et à un mode de gouvernance uniquement basé sur un certain nombre d'indicateurs de résultats qui fait qu'on n'enseignerait plus que ce qui est évaluable, je ne développe pas beaucoup, vous voyez un petit peu quel type de sinistre caricature des pilotages on pourrait avoir si on pousse cette logique dans une logique de gouvernance. Le modèle de référence, c'est le modèle médical. On part de cette idée qu'on a bien un jour arrêté de faire des saignées parce que il s'avérait que sur le plan médical, c'était pas très pertinent, on a trouvé mieux. Et on considère qu'un médecin aujourd'hui, il fait une faute professionnelle s'il propose un traitement qui n'est pas respectueux de l'état de l'art de sa discipline. Et l'état de l'art de sa discipline, c'est l'état des connaissances disponibles dans le corps médical qu'il est en devoir de ne pas ignorer. Ça s'appelle une faute professionnelle si vous proposez un traitement qui est en deçà de ce qu'il est convenu qu'un médecin généraliste connaisse. Et puis pour un chirurgien, s'il commet un geste qui est moins qualifié que ce que sa corporation a défini comme étant le geste qui est partagé. Peut-être pas le geste de pointe, mais le geste qui est considéré comme révélateur de l'état de l'art de la profession, des connaissances disponibles dans une profession. Donc la question que je vais poser aujourd'hui, c'est quel est l'état de l'art des connaissances disponibles dans la profession enseignante qu'un formateur n'a pas le droit d'ignorer s'il ne veut pas se placer dans la situation d'être un diaphorus de la pédagogie, c'est-à-dire de dire ce qu'il croit, lui, ce qui, probablement, du temps de sa grand-mère, devait marcher, etc., et qui ne tienne aucun compte de l'état des connaissances disponibles. Voilà. Donc c'est ça, mon fil conducteur. Je ne vais donc pas suivre au pied de la lettre la logique des evidence-based, qui, encore une fois, fait des ravages, je pense, sur le plan international, jusqu'à, par exemple, imaginer qu'on va pouvoir indexer le salaire des enseignants sur le niveau de performance de leurs élèves, ce qu'on a essayé en Angleterre, hein, dans une approche très très libérale de l'éducation. On mesure de l'efficacité individuelle. Vous voyez, on n'est plus sur des recherches de pratique, on est sur des individus, et on les paye d'autant mieux qu'ils sont efficaces. Et il a fallu quelques années pour qu'en Angleterre, tous les profs truandent les évaluations et fassent capoter le dispositif, puisqu'ils trichaient. Et en trichant, ils ont rendu caduque l'idée d'indexer leur salaire sur les performances de leurs élèves, puisqu'ils leur soufflaient les réponses pour ne pas se faire dévaloriser. Vous voyez un peu le... Donc je ne vais pas parler de ça, même si, dans le contexte actuel, il y aurait beaucoup à en dire, et je vais donc me réfréner. Je termine sur mes prémices, sur ces postulats. C'est, au fond, ce que je suis en train de dire, c'est qu'une chose est d'accompagner les débutants, et bien sûr qu'il faut les accompagner au plus près de leurs préoccupations, mais on ne peut pas en rester au plus près de leurs préoccupations. Il faut bien les emmener là où nous, on sait que se joue l'essentiel, l'important, l'important en particulier pour les élèves qui ont le plus besoin d'eux. C'est ça que je vais appeler une pratique démocratisante. C'est une pratique qui favorise les apprentissages des élèves qui ont le plus besoin de l'école pour apprendre. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on apprend largement en dehors de l'école, même si c'est l'école qui les évalue et les valide. Mais elles se construisent ailleurs. Sauf que justement, si l'école évalue un certain nombre de choses qu'elle ne construit pas, alors elle joue un rôle de reproduction des inégalités sociales particulièrement important. D'où cette thématique d'une école démocratisante autour de quels sont finalement ces savoirs et ces savoir-faire de métier, le métier de prof, qu'il faut transmettre. Transmettre à des jeunes, à des débutants. Et il me semble que c'est une des facettes de notre travail de formateur. Et évidemment, pour que ces savoirs et ces savoir-faire puissent être transmissibles, alors il faut qu'ils soient énonçables. Et pour qu'ils soient énonçables, il faut notamment qu'ils soient conscientisés et explicités. Il y a beaucoup de ces savoir-faire qui sont des savoir-faire de métier qui sont très incorporés. Comme maître sait faire, il peut dire à un jeune « regarde et fais comme moi », sauf que justement, qu'est-ce qu'il y a à regarder ? Généralement, les jeunes, ils en restent à la surface des comportements, des attitudes. Et ils essayent de reproduire ce qu'ils ont vu en termes d'attitudes et de comportements sans en comprendre suffisamment les fondements, les principes organisateurs. Or, si vous mimez un comportement sans être capable d'avoir compris son essence même, ses principaux organisateurs, ses principes fondateurs, alors évidemment, vous ne savez pas les ajuster à un nouveau contexte. Et dans ce cas-là, « Ah oui, mais dans ma classe, ça ne marche pas. J'ai vu dans votre classe, ça marche, mais dans la mienne, ça ne marche pas. Ça doit être que vous êtes dans un quartier favorisé et moi, je suis défavorisé. » Mais non, ce n'est pas ça. C'est que les conditions à réunir pour que ça marche, n'avait pas été non plus suffisamment énoncé, explicité et transmise en même temps que les savoir-faire de métier. Donc un gros boulot qui est au passage un gros travail de recherche pour justement, avec les praticiens, arriver à théoriser ces réussites en actes et à les rendre de plus en plus énonçables, claires, conscientes, explicites et du coup plus facilement transmissibles aux jeunes générations professionnelles. Voilà en gros le mode de raisonnement qui est le nôtre. C'est pour ça, au passage, regardez bien, qu'on a un laboratoire qui s'appelle ACTE, Activité, Connaissance, Transmission et Éducation. Et vous voyez bien que cette notion de transmission, on n'en a pas honte. On est bien d'accord. On n'est pas dans ces années folles où il fallait que les petits jeunes y réinventent l'eau chaude, le fil à couper le beurre et le fil à plomb. Non, évidemment que ce métier a des savoir-faire qu'on va transmettre, a des outils qu'on va transmettre. Alors avant, c'était péjoratif, on disait que c'était des recettes. Il ne fallait pas transmettre ça parce que c'était des recettes. Non, c'est pas bien. Alors maintenant, on transmet des gestes professionnels. C'est beaucoup plus noble. Mais au fond, il y a quand même de la transmission de savoir et de savoir-faire de métier. Sauf que la question, c'est quels sont les bons? Est-ce que tout se vaut? Est-ce que toutes les pratiques se valent? Est-ce que sous prétexte que moi je fais ça et que ça marche, est-ce que ça suffit pour être à l'origine de mes conseils et de mon activité de transmission? Et donc, évidemment, c'est là où on revient à ma logique de départ de quel est l'état de l'art des connaissances disponibles pour que je confronte mes savoirs à moi, mes intuitions, mes croyances, mes convictions de formateur, de professionnel de l'enseignement, aussi avec les connaissances des autres, de mes collègues, et les connaissances formalisées, inventoriées par les univers de recherche. Donc, c'est évidemment dans cette logique-là qu'on travaille, et c'est notre boulot de formateur, que d'essayer de faire partager ces connaissances, en sachant qu'aucune de ces connaissances n'épuise évidemment l'action de l'enseignant ou l'action du formateur. Si vous ne deviez faire que ce que la recherche a établi comme valide, vous seriez paralysé, vous le savez bien. Si vous deviez m'enseigner que ce sur quoi on a des références scientifiquement établies, donc on est bien d'accord que dès qu'on est en situation d'action, on est en situation de prise de risque, de prise de responsabilité, on fait avec ce qu'on a, et on fait dans un état d'ignorance relatif, qu'on assume. Si on attend de savoir pour faire, on ne fait rien. Donc évidemment, on fait avec ce qu'on sait, et avec ce qu'on est aussi. Mais on est payé pour repousser le plus loin possible les limites de ce qu'on ignore. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Voilà, en gros, la logique du raisonnement. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'ignorer? Pour ça, donc, notre travail de formateur-formateur, c'est d'essayer de faire des inventaires des connaissances disponibles qui peuvent éclairer. Encore une fois, elles n'épuisent pas la logique de l'action, aucune, mais elles peuvent l'éclairer. Moi, je dis souvent, elles peuvent servir d'argument pour l'action. Ces connaissances sont des arguments pour l'action. Alors, dans cette logique d'argument pour l'action, on peut dire que nos connaissances proviennent de trois grands univers de recherche, qui toutes vont permettre donc de mieux réfléchir à l'action, de mieux servir d'argument pour l'action pédagogique. Premier univers, l'univers des neurosciences. Je dis premier, vous allez voir pourquoi je le mets en haut de la pile. C'est pas parce que c'est celui qui a le plus de connaissances disponibles aujourd'hui, c'est parce que c'est celui qui est le plus loin de l'action. L'action, elle est en bas. D'accord ? Donc au plus loin de l'action, il y a des connaissances sur comment ça marche un cerveau humain. Et en quoi les connaissances dont on dispose de plus en plus et de mieux en mieux aujourd'hui peuvent éclairer un certain nombre de mécanismes d'apprentissage? Ça nous dit à peu près jamais comment il faut faire pour enseigner. Mais ça nous dit des petites choses sur comment ça se passe l'apprentissage qui peuvent être des éclairages pour penser peut-être certaines réflexions pédagogiques. Ça permet surtout de faire le lien avec la deuxième strate de connaissances qui viennent des sciences que j'ai baptisées là, des sciences du comportement, qui sont surtout, pour ce qui nous intéresse, des sciences issues des psychologies, psychologie cognitive surtout, sur les grandes fonctions mentales, sur le raisonnement, sur les acquisitions de connaissances, des psychologies du développement, justement de la dynamique de ces apprentissages, des psychologies sociales, voire des sociologies que je rentre ici, comme étant des sciences du comportement souvent collectif et des comportements collectifs dans des contextes qui sont eux-mêmes des contextes plus ou moins favorables aux apprentissages. Au passage, on voit qu'il y a un dialogue très intense entre les neurosciences et les sciences cognitives. D'ailleurs, très souvent, les étudiants, ils mélangent tout. Ils appellent neurosciences des choses qui sont de la psychologie cognitive ou le contraire. En fait, c'est des sciences qui, pour les sciences cognitives, étudient des raisonnements, des capacités, de la manière dont se passe un certain nombre d'opérations, sans savoir comment ça se passe sur le plan neuronal, mais en comprenant comment ça peut se passer sur le plan fonctionnel. Et généralement, quand on a les modèles neuronaux, on vérifie que les hypothèses fonctionnelles des sciences du comportement sont compatibles. Moi, je vais beaucoup raisonner sur la notion de compatibilité avec les connaissances neuronales. Oui, ce mécanisme de la lecture, mis au jour dans les années 80, sur les deux voies, une voie phonologique où on subvocalise les mots et une voie où on reconnaît les mots comme des entités orthographiques, les psychologues nous décrivent ça depuis 35 ou 40 ans. Les neurosciences peuvent vous dire aujourd'hui, et depuis pas très très longtemps, quelles sont les zones neuronales qui sont activées dans un cas et dans l'autre cas. Ce qui veut dire que ces deux modalités, elles ont bien un substrat neurobiologique. Ça vient valider le modèle de la psychologie. Ça ne change à peu près rien à ce qu'on en savait déjà, si ce n'est qu'on sait mieux comment ça se passe. D'accord ? On comprend, par exemple, avec les neurosciences, que les aires corticales dédiées à la lecture et à l'écriture n'étaient pas génétiquement programmées parce que les humains, il y a quelques milliers d'années, ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc ils n'avaient pas d'aire corticale dédiée au traitement du langage. Donc quand les humains ont inventé l'écriture, ils n'ont pas inventé des nouvelles aires corticales. Ils ont spécialisé des aires qui étaient dédiées aux aires visuelles, qui étaient traitées notamment à la reconnaissance des visages, puisqu'on a un fort marquage biologique sur la reconnaissance des visages. Ça, c'est programmé génétiquement. Ce qui n'est pas programmé génétiquement, c'est reconnaître des lettres. Ce qui veut dire que les enfants reconnaissent les lettres au début en utilisant les aires corticales qui sont utilisées pour traiter les visages. Ce qui veut dire que, par exemple, regardez la symétrie axiale d'un visage et vous comprenez à travers ça que le « be » et le « de », si vous utilisez des aires qui ont l'habitude de traiter une reconnaissance sans traiter cette partition avec une ligne de symétrie, ça explique beaucoup des confusions que font les jeunes enfants dans une phase où ces aires ne sont pas encore suffisamment matures et suffisamment spécialisées, et où ils continuent à confondre des lettres qui se ressemblent parce qu'elles ont une symétrie axiale qui fait que P et Q, le P et le Q, ils ne les distinguent pas, etc. Et qu'il n'y a rien de grave à ça, que c'est juste la trace. Donc on est très content, quand on est neurobiologiste, d'avoir compris pourquoi il y avait autant d'erreurs de ce type-là. Le maître, ça ne bouleverse pas grand-chose à sa vie. Il sait qu'il faudra qu'il systématise, qu'il soit un peu patient, qu'il attire l'attention des enfants là-dessus et qu'il dise « le B, il a un gros bedon et le D, il a un gros derrière » et qu'il invente des techniques mnémotechniques et autres pour, d'une manière ou d'une autre, bricoler quelque chose qui aide les enfants à se souvenir que ces deux lettres qui se ressemblent n'ont pas le même nom et ne font pas le même bruit. Et oui. Donc les neurosciences nous intéressent, mais vous comprenez bien qu'elles ne vont pas bouleverser notre manière à l'école maternelle d'enseigner. Mais on va s'assurer que les difficultés auxquelles on était confrontés ne sont pas des difficultés que les pédagogues ont inventées. C'est bien des difficultés qui ont à voir avec le développement psychologique des enfants, etc., etc. Ça va, vous voyez, ce genre de raisonnement sur on cherche à vérifier que ce qu'on fait est pour le moins cohérent avec ce qu'on sait de plus récent sur les acquisitions de ce type. Évidemment, troisième zone de connaissance, les connaissances qui viennent de ceux qui travaillent, cette fois-ci, sur l'intervention pédagogique, sur les didactiques, sur les pédagogies, les sciences de l'éducation. On vient de publier une grosse recherche sur l'influence des pratiques d'enseignement de la lecture sur la qualité des apprentissages des élèves au cours préparatoire. Voilà une recherche qui relève des sciences de l'éducation, où on a passé beaucoup de temps en classe, où on a analysé les pratiques des maîtres, où on a fait des évaluations des élèves avant et après, et où on a regardé ce qui, statistiquement, pouvait être mis en relation causale entre les variations de pratiques pédagogiques et les qualités de progrès des élèves. On a donc des connaissances qui viennent aussi de cette sphère-là de recherche. Des formateurs aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin d'avoir des connaissances dans les trois registres, qu'ils ont besoin de les faire partager aux formateurs qui forment, sont formateurs, et les formateurs, ils ont besoin de les faire partager à leur tour, évidemment, à nos jeunes collègues. Avec à chaque fois un esprit critique nécessaire, qui est toujours à interroger la compatibilité entre ces trois univers de production de connaissances, c'est un petit peu le raisonnement que j'ai commencé à tenir, et leur domaine de validité. Quelle est la portée de ce résultat? Que nous apprend-il? Sur quoi nous renseigne-t-il? Et qu'est-ce qu'il ne permet pas de conclure? C'est ça le domaine de validité. C'est savoir aussi les limites d'une connaissance, savoir que telle zone du cerveau s'active dans telle activité, c'est important, c'est avéré. Est-ce que pour autant, ça détermine la manière dont il faut s'y prendre en classe pour faire allumer en rose la motivation? Ben non. Donc là, quand vous êtes neuroscientifique et vous dites « je vais vous expliquer comment vous faites la classe », généralement, c'est un abus de pouvoir. Généralement, c'est simplement la société dans laquelle on est, c'est-à-dire vous jouissez d'une notoriété et vous vous servez de votre notoriété pour sortir de votre espace de légitimité scientifique pour parler de choses que vous ne maîtrisez pas et sur lesquelles vous pouvez, comme tous les autres citoyens, avoir des avis et des opinions, mais sur lesquelles rien de ce que vous avez fait dans votre laboratoire ne vous permet de conclure. Vous pouvez être pasteur dans votre laboratoire et n'avoir rien à dire sur la composition du 11 de France pour la prochaine Coupe du Monde de football. Vous êtes d'accord? Mais si je prends cet exemple, tout le monde dit bah, « on n'aurait jamais demandé à un prix Nobel de physique son avis sur la composition du 11 de France ». Mais par contre, le prix Nobel de physique, on n'hésite pas à lui demander son avis sur l'enseignement de la physique au lycée et peut-être même sur l'enseignement de la lecture à la maternelle. Parce que quand même, c'est un intellectuel de haut vol. Et là, vous dites « est-ce bien raisonnable ?» Vous voyez, à quel moment c'est l'effet de notoriété qui se met à masquer, en fait, des idées de sens commun? Ça peut être des idées justes de sens commun, mais elles restent des idées de sens commun. Et c'est assez compliqué pour nous, hein, à essayer de voir si on attribue de la validité à un propos parce qu'il est fondé rationnellement ou parce qu'il est fondé médiatiquement, c'est-à-dire si son auteur a une notoriété, qui l'autorise à prendre la parole sur le sujet. Ça va ? On peut étendre ça à beaucoup de sphères professionnelles, mais chez nous, c'est particulièrement criant. Ceci dit, c'est vrai de la même manière entre les didacticiens et les pédagogues. Hein. Il y a toute une série de choses que les didacticiens ont établies dans un certain nombre de conditions qui ne sont pas valides en toutes circonstances, en tout lieu, en tout contexte, etc. C'est spectaculairement faux de passer de 5 gamins qui sont passés dans un tube IRM à l'hôpital à la méthode syllabique est meilleure que les autres. Tout le monde comprend bien que c'est caricatural, ces espèces de court-circuits. Voilà. Entre un univers de connaissances et une application concrète, je pense que si on raisonne sur la cascade des compatibilités ascendantes et descendantes, on est sur quelque chose qui est plus raisonnable. Voilà. C'est comme ça qu'on va raisonner. Bilan des courses. Bilan des courses, qu'est-ce qu'on a comme connaissances disponibles issues de ces trois univers qui peuvent nous servir de boussole, qui peuvent nous servir d'arguments pour légitimer des conseils, des recommandations. Donc, moi, mon travail, comme mes collègues, c'est d'essayer de lire beaucoup, de faire moi-même des recherches, de produire des connaissances, mais surtout de connaître celles des autres, d'essayer de les capitaliser, de les synthétiser et de les transmettre. Et en faisant ça depuis maintenant longtemps, je me suis dit, et c'est comme ça que je travaille avec mes étudiants, notamment en formation de formateurs, c'était ce que je commençais à faire tout à l'heure avec les étudiants que j'avais en début d'après-midi, je leur dis, écoutez, finalement, tout ce que je lis, j'essaye de le ranger. Donc, non, ça n'est pas un modèle, ce que je veux proposer, parce que pour moi, un modèle, au sens scientifique, c'est quelque chose qui permet de faire des prévisions sur un certain nombre de phénomènes. Si telle et telle condition sont réunies, alors il y a telle et telle relation entre des éléments qui sont organisés dans un modèle qui permettent d'imaginer que si on met des choses à l'entrée, il va sortir des choses. Ça, c'est un modèle. Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas du tout un modèle, c'est juste un rangement. D'accord ? J'espère qu'il sera astucieux. Voilà, c'est ce qu'on fait de mieux en sciences de l'éducation, moi je pense, c'est des astucieux rangements. On ne fait pas des modèles, j'y crois pas. Ce n'est pas une théorie non plus. Mais c'est une manière de ranger les connaissances. Donc, comment est-ce que moi, je range les connaissances dans ma boîte à moi et que je propose à mes étudiants pour ranger les leurs, et vous allez voir à quoi ça peut servir. Alors d'abord, je parcours le modèle, qui n'en est pas un, et qui est donc un... Alors, on a dit tout à l'heure un tableau de bord, un plan de vol, un plan... Une organisation, une boîte de rangement. Une boîte de rangement avec des meubles et des tiroirs. Le meuble clé, le meuble central dans l'édifice, c'est le meuble planification. En d'autres termes, un enseignement est d'autant plus efficace et démocratisant. Démocratisant au sens où j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le plus, non seulement efficace, mais équitable. Le plus bénéfique à ceux qui ont le plus besoin de l'école pour apprendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est lorsque cet enseignement, il est bien conçu. Rien de bouleversant. Hein. Je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura rien de bouleversant. C'est le mode de rangement et les liens peut-être que je vais essayer de développer. Ce qui suppose évidemment qu'on puisse interroger la définition et la pertinence des objectifs et que, par exemple, c'est tout à fait important que les étudiants fassent la différence entre le fait que leurs objectifs sont des objectifs d'acquisition ou des objectifs de mémorisation ou des objectifs de transfert, ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui suppose non plus des choix de méthode relativement différents. Donc évidemment, derrière chacun de ces mots qui sont en bleu, se cache un lien hypertexte qui ouvre à une base de données dans laquelle il y a des textes scientifiques de référence, des comptes rendus de recherche qui, des exemples pratiques et des documents vidéo qui sont des documents vidéo qui peuvent servir de ressources pour faire des formations. C'est comme ça qu'on travaille. 14 heures, on est en train avec mes étudiants là, de fabriquer un Wikipédia. Le Wikipédia, ça, c'est juste la feuille d'accès. Et derrière tous les mots qui sont en bleu, il y a des fenêtres, des liens hypertextes, et derrière, des arguments, des articles de référence, des connaissances synthétisées, des connaissances brutes, des exemples, etc. Donc évidemment, je ne peux pas faire ça en une heure. Donc je vous donne une idée de la manière dont on le fait et quelques conséquences de ce mode de raisonnement. Évidemment, on s'interroge. Alors, vous voyez, on s'interroge quand on en fait un outil pour interroger sa pratique, mais on interroge quand on interroge la pratique d'un autre, que ce soit la pratique d'un débutant qu'on veut conseiller ou la pratique d'un expert qu'on essaye d'analyser pour rendre explicitables des savoirs qu'on veut transmettre. Donc, en gros, c'est la même boîte à outils qui sert pour faire de l'analyse en recherche et pour faire de la formation. Donc évidemment, on s'interroge sur la temporalité. Est-ce qu'on est en train de s'inscrire dans quelque chose dont l'échelle temporelle, c'est la séance? Est-ce que la séquence, est-ce que c'est le travail qu'on fait à l'échelle du trimestre? Est-ce qu'on est sur du pluriannuel? Évidemment que si on n'a pas une idée de l'insertion temporelle de l'épisode qu'on est en train de commenter, il y a des tas de choses qui deviendraient des conseils ridicules, parce qu'on ne va pas reprocher aux étudiants de ne pas avoir fait ça là, alors que peut-être ils l'avaient fait avant ou qu'ils vont le faire après, et que c'est simplement une temporalité qu'on gère mal nous-mêmes dans nos conseils. Donc évidemment, il faut remettre ça dans un contexte temporel. Évidemment, on s'intéresse beaucoup aux tâches didactiques, ce que j'appelle synopsis, c'est-à-dire la manière dont sont construites les séances comme des suites ordonnées de tâches. Et par exemple, les exercices qu'on fait en pédagogie, là, c'est des exercices où on va prendre une pratique vidéo qui est considérée comme une pratique de référence, au sens une pratique qui a fait la preuve d'un certain nombre de critères d'efficacité. Et donc le but du jeu, c'est que des jeunes s'approprient les gestes professionnels qui sont à l'œuvre dans cette vidéo. Et les premiers niveaux d'appropriation, c'est de comprendre que là où eux, ils voient une phase 1, une phase 2, une phase 3 dans la leçon, en réalité se cachent de très nombreuses tâches. Et on appelle tâches, en gros, ce qui correspond à un changement de consigne. Chaque fois qu'on demande aux élèves de faire quelque chose d'autre, de quelque chose de plus, de quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que là, on leur demande de lire silencieusement, puis de commenter ce qu'ils viennent de lire, puis d'expliquer un mot, et que ces trois éléments sont trois tâches. Et qu'il faut identifier à ce niveau-là la succession des tâches, pour comprendre que derrière quelque chose qui ressemble à une autre étape 1 d'une autre leçon, il n'y avait en réalité pas exactement les mêmes tâches, ni dans le même enchaînement. Donc là, on descend très clairement sur un niveau d'analyse didactique des tâches qui composent une séance plus ou moins pertinente. On est à l'échelle de quelque chose qui va être une démarche pédagogique. Déjà, on annonce la couleur de valoriser un certain éclectisme pédagogique. sachez que dans cet aspect, on valorise un éclectisme pédagogique. En d'autres termes, on ne pense pas qu'il y a une bonne démarche. On pense qu'il y a des démarches qui sont plus ou moins adéquates à l'objectif poursuivi. Et que du coup, un maître bien formé, c'est un maître qui, dans sa panoplie, a à sa disposition des démarches, on va dire, de nature différente. Là, j'en ai listé quelques-unes. Il est capable de construire des séances expositives, même si elles sont dialoguées, un enseignement magistral, dialogué. Il est capable de procéder par instruction directe. Alors ça, il faudrait que je prenne du temps pour expliquer ce qu'on entend exactement par instruction directe. On va dire une version la plus behavioriste de l'enseignement lorsqu'on est devant une modélisation de comportement qu'on veut que les élèves reproduisent. On peut être devant des résolutions guidées où il y a un problème à résoudre, mais c'est un problème à résoudre avec un guidage fort du professeur, et c'est la résolution de ce problème collectivement qui permet d'accéder à la connaissance qu'on vise. D'autres sont des démarches plutôt type scientifique, de type investigation ou enquête, que nos collègues de sciences expérimentales ou d'histoire géo utilisent beaucoup. D'autres sont des vrais tâtonnements avec des explorations libres. Et d'autres sont des phases, clairement, d'entraînement, de systématisation, d'exercice et de jeu. Pour vous donner juste un petit ordre d'idée de ce que j'appelle par démarche pédagogique. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, le débat qui est piégé, c'est qu'on essaye de nous expliquer qu'il y a des démarches qui sont intrinsèquement meilleures que d'autres. Et que là où on s'élève en faux, c'est de dire non, ce n'est pas vrai. La démarche d'instruction directe, qui est la grande panacée des Nord-Américains aujourd'hui, hein, qui ont établi la pertinence de l'instruction directe. L'instruction directe, c'est vous prenez une notion, vous montrez aux élèves ce qu'elle est, comment il faut la traiter, vous leur faites réaliser, vous ne les lâchez pas tant qu'ils n'ont pas réalisé la procédure que vous leur avez montrée, vous vérifiez qu'avant de passer à un exercice individuel, ils sont capables de le réussir en collectif. Puis vous faites faire un exercice individuel, vous vérifiez qu'il est valide avant d'aller passer à l'étape 2. Donc vous voyez, un enseignement très programmé, très étapiste, très procédural, avec un guidage de procédure. C'est tout à fait pertinent dans certains cas. Nos collègues ont un peu tendance à en faire maintenant la panacée de ce qu'ils appellent un enseignement explicite, ce qui est totalement frauduleux comme terme, c'est accaparer l'adjectif d'explicite pour en faire une caractéristique d'une démarche. Alors qu'en fait, une démarche de résolution guidée, elle peut être une démarche très explicite, dans la mesure où chaque étape est présentée aux élèves sur l'objectif, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on cherche à apprendre, le bilan de savoir à la fin de l'étape, etc., etc. Donc il y a mille et une manières de conduire un enseignement plus ou moins explicite à l'intérieur d'une démarche qui peut être plutôt de type expositif, d'instruction directe, résolution guidée. Vous sentez l'idée là ? C'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de hold-up sémantique sur le mot explicite qui est devenu la panacée absolue, qui en réalité, on a beaucoup de données empiriques qui montrent qu'un enseignement plus l'explicite, plus démocratisant, mais ce qu'il ne faut pas laisser dire, c'est que l'enseignement explicite, c'est ce sous-ensemble qui s'appelle l'instruction directe, qui est cet enseignement, je disais, très comportementaliste, très behavioriste que j'évoquais tout à l'heure. Donc attention là au glissement de sens. C'est d'autant plus important que lorsqu'on regarde la logique des evidence-based dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des données fondées sur la preuve, on a ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des recherches qui reprennent toutes les recherches disponibles et qui les filtrent. Et aujourd'hui, ce qui fait la loi sur le plan scientifique, ce n'est pas les recherches, c'est les méta-analyses, c'est-à-dire c'est les recherches sur les recherches, celles qui comparent les résultats de 25, 30, 150 recherches et qui définissent les critères de scientificité qui fait que sur 150 recherches qui parlaient de l'enseignement explicite, seulement 120 sont retenues comme scientifiques, les autres sont jetées à la poubelle directe, et ensuite on regarde quels sont les résultats qui s'avèrent cohérents et consistants. Quand vous voyez les conclusions qui sont tirées à partir d'une recherche, c'est que les gens ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, pour tirer des conclusions, il faut évidemment pouvoir comparer les résultats de plusieurs recherches qui, par effet d'accumulation et de croisement, permettent de vérifier, en termes scientifiques, la falsification et la reproductibilité d'un certain nombre de résultats. Si on fait ça, et c'est ce qu'ont fait nos collègues américains dans les années 2011, autour de la question, est-ce que les démarches d'instruction, des démarches d'enseignement basées sur le tâtonnement et la découverte favorisent l'apprentissage ? Je vous épargne le résumé en anglais, je vous dis ça en français. Première série de résultats très consensuels, les démarches fondées sur l'exploration libre, le tâtonnement, l'exploration comme ça, s'avèrent peu performantes. C'est-à-dire un bilan très critique de ces démarches très ouvertes, où les enfants explorent, avec des temps d'exploration longues, et je dirais peu guidées, peu structurées, au sens où je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est assez consensuel dans les années 2010, dans ces méta-analyses nord-américaines. Arrivent nos collègues Alfieri qui reprennent des méta-analyses ils reprennent 164 études chez les Australiens, chez les Anglais, chez les Américains, chez les Polonais, etc. Et c'est comme ça, hein, aujourd'hui, que se fabrique la connaissance. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent des recherches qui contrastent l'efficacité entre les découvertes ou de tâtonnement, celles dont je viens de parler, et qu'il les oppose à l'enseignement que les Nord-Américains appellent explicite, et que moi, je vous ai dit, qui en réalité s'appelle « direct instruction », quand on regarde de près, c'est-à-dire cet enseignement d'instruction directe par procédure. Je vous donne la procédure, vous la mettez à l'œuvre, dès que j'ai vérifié que vous la maîtrisez, on passe à l'étape d'après. Quand on fait cette comparaison, est-il plus pertinent d'enseigner les sciences, les maths, par exploration tâtonnante, ou par guidage procédural serré, les résultats sont très nets, ils sont favorables à l'instruction directe. Les élèves qui apprennent dans ces modalités d'instruction directe, que je qualifiais de behavioriste tout à l'heure, 580 études randomisées, c'est-à-dire avec des tirages au sort aléatoires, je vous passe les détails méthodologiques, les indices, les coefficients, ils vont tous dans le même sens, bénéfice de l'instruction directe sur les découvertes et le tâtonnement. Ce qui fait qu'au Québec, qui était allé très très loin sur une pédagogie socio-constructiviste, où il fallait que les élèves, ils explorent, ils tâtonnent, ils découvrent. En gros, moins le maître enseignait, mieux les élèves apprenaient. Je caricature un peu, mais vous voyez un peu cette idéologie pédagogique d'une survalorisation d'une activité exploratoire. Quand ils ont vu arriver ces résultats, ils ont dit « Vous voyez bien qu'on on a tort ». Et ils sont passés, dans des mouvements balanciers comme ça ferme au système, à une espèce d'apologie d'un enseignement du plus traditionnel, du plus magistral, du plus directif qui soit, qui est celui de l'instruction directe. En disant, on a les recherches qui montrent la supériorité. Oui, mais la supériorité de quoi sur quoi ? La supériorité de l'instruction directe sur ces phases mal gérées et trop longues, etc., exploratoires de découverte. Mais quand ils ont fait une deuxième série de méta-analyses, où cette fois-ci, ils ont comparé les résolutions ou découvertes guidées, ce qui est le cas de la plupart de nos scénarios didactiques ici, quand Pierre Sèvres propose une leçon de grammaire, en fait, il y a un petit texte sur lequel les enfants procèdent à un certain nombre d'observations qui sont déjà pilotées par une question qu'a posée le professeur. Sur la base des premières observations, il y a tout de suite une phase de mise en ordre, de comparaison, d'établissement de tableaux, de fabrication, d'énoncer, de la connaissance à retenir. Donc une sorte de construction guidée dans un pas à pas de résolution. Ils ont pris ça comme méthodologie et ils les ont comparés aux deux autres. Les explicites, au sens d'instruction directe, et les découvertes libres. Supériorité écrasante des résolutions guidées sur les deux autres. D'accord ? Dans les méta-analyses. Donc, en d'autres termes, là où les premiers pensaient qu'ils avaient résolu l'équation avec leur instruction directe, les seconds leur disaient « Mais non, c'est que vous aviez fait la mauvaise comparaison, faites une autre comparaison, vous trouvez d'autres résultats, etc. etc. » Ça va ? Voilà. Donc, méfiez-vous de ces prêt-à-penser où on dit « On a montré que ?» On a montré la supériorité de quoi sur quoi ? Déjà, la question de base. Hein. De quoi sur quoi ? Parce que généralement, c'est la supériorité intrinsèquement d'une méthode en tout lieu, en tout temps, à tout niveau, sur toutes les disciplines. Mais c'est de la blague. La portée, le domaine de validité de ces recherches, il est valide ici sur des connaissances scientifiques transmises à des élèves de secondaire, dans des conditions, etc. etc. Et dès que vous extrapolez ça à n'importe quel niveau, n'importe quelle matière, n'importe quel âge, ça devient faux. Ou plutôt, ça veut dire on n'en sait rien. Voilà. Donc, exemple pour illustrer... Illustrer ce type de raisonnement, quand on va ouvrir des boîtes, comme celle que je suis en train d'ouvrir, on ouvre des boîtes, on va regarder la question de l'évaluation, la place de l'évaluation dans la démarche, Qu'est-ce qu'on sait de à quelles conditions l'évaluation joue un rôle positif, à quelles conditions l'évaluation en soi, c'est pas une panacée, c'est pas une vertu, vous le savez très bien. On peut passer beaucoup de temps à, et faire perdre beaucoup de temps à nos élèves dans des tâches évaluatives qui ne donnent ni d'informations aux élèves, ni aux maîtres, ou des informations qui sont plus démobilisatrices que mobilisatrices, etc., etc. Vous le savez aussi bien. Donc, sur tous ces espaces-là, en réalité, il y a des espaces de questions et des informations qui peuvent nous permettre d'argumenter dans des choses relativement nuancées, il faut bien le dire. J'ai peu de temps, je vais donc parcourir très vite les quatre autres rubriques pour que vous voyez un peu le mode de raisonnement, et puis j'irai assez vite à qu'est-ce qu'on en fait. Le deuxième grand bloc, c'est un bloc qui est centré autour de la régulation de l'activité des élèves en classe, en d'autres dire les interactions entre le prof et les élèves. Vous voyez que la planification, ça se joue beaucoup en l'absence des élèves. Ça se joue beaucoup dans la préparation de la classe. Et vous savez très bien qu'une bonne partie du travail du formateur, notamment quand il accompagne les débutants, il consiste à les accompagner lorsqu'ils préparent leur classe. Et on va leur permettre, en les aidant à préparer leur classe, à avoir des expériences plus réussies en classe face à leurs élèves, qui leur apprendront plus de choses. Parce qu'ils apprennent d'autant mieux qu'ils réussissent à faire classe. Et pour les aider à réussir à faire classe, il faut les aider à bien préparer leur classe. Donc évidemment qu'il y a toute une partie de notre travail qui ne consiste pas simplement à être réactif à ce qu'ils mettent en œuvre, mais à être proactif pour les aider à bien préparer, de manière à ce que ça se déroule d'une manière, parce que la planification est bien conçue, que les objectifs sont bien définis, que l'enchaînement des tâches est bien pensé, etc., etc. Vous le savez tout aussi bien que moi. Il n'empêche que plein d'autres choses se jouent ici et maintenant dans l'espace classe, dans les interactions. Et là, par exemple, derrière mes 5 points, il y a autant de travaux de recherche. Par exemple, sur le climat de classe, on a toute une littérature, là encore très nord-américaine, sur le fait qu'il y a une corrélation forte et parfois des causalités établies entre la qualité du climat de classe, la manière dont les enfants se parlent entre eux, la manière dont ils communiquent avec le professeur, la manière dont il y a respect, considération. Oui, parce que pour moi, la valeur fondamentale, c'est la considération que le prof porte à ses élèves. Au passage, ce n'est pas l'amour, même si aujourd'hui, il est plus médiatique de vendre l'amour comme clé pédagogique. La considération est probablement une valeur que je proposerais comme alternative à l'amour, parce que l'amour, vous le savez bien, c'est élitiste. L'amour, ça choisit son objet. Il y a des gens qu'on aime et des gens qu'on n'aime pas. Si vous faites la classe pour être aimé en retour, qu'allez-vous faire des ingrats? De ceux qui ne vous gratifient pas en retour. C'est absolument élitiste, hein, l'amour. Il n'y a que la considération qui peut être réinterrogée dans la logique de la démocratisation. Enfin, je vous suggère ça comme... En tout cas, on a beaucoup de données qui montrent ce rapport. Donc, on a raison quand on dit qu'il y a des questions de vie de classe qui sont des questions favorables aux apprentissages. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tout le monde le sait, on a raison. En plus, on a des données empiriques qui l'étayent, etc. Tant mieux. Mais la plupart du temps, tous ces travaux ne font que conforter bon nombre de vos intimes convictions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis de temps en temps, ça oblige à en revisiter quelques-unes. Ça, c'est pas forcément plus mal non plus. Donc, la manière de gérer les interactions. Évidemment, ce gros leitmotiv très contemporain, mais très fondé scientifiquement, sur la qualité du retour d'information, le feedback en français courant. Et évidemment, là, toute une série d'interrogations sur mais quels sont les bons feedbacks, notamment dans le fait qu'ils doivent être plus ou moins positifs. Et on voit bien que la quantité de feedback positif joue un rôle favorable aux apprentissages, jusqu'au moment où ça devient une espèce de règle niaiseuse, où on dit c'est bien à tous les enfants quand ils disent n'importe quoi. Et évidemment, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est positif dans la dynamique que vous instaurez en allant chercher toujours ce qu'il y a de juste déjà dans une réponse fausse. Dans le fait que c'était pas n'importe quoi, que c'était le début de quelque chose, même si l'on manque encore un bout. Mais être capable d'aller signifier le positif dans quelque chose qui s'avère erroné, c'est évidemment un élément dont on montre, en termes de dynamique cognitive, que c'est clairement positif. Donc, on a beaucoup de données là-dedans. À quel moment ce feedback doit-il être immédiat? À quel moment peut-il être différé? C'est évidemment une variable didactique très importante. Il y a des apprentissages très procéduraux qui ne bénéficient que des feedbacks immédiats. Si vous êtes dans une tâche de lecture en haute voix, ce qui paye, c'est de corriger immédiatement au moment où se prononce la syllabe mal prononcée, etc. Si vous attendez après la récré, ça ne sert plus à rien. Il y a d'autres choses qui ont des délais de réponse qui supportent bien plus d'être corrigés le soir tranquillement devant son paquet de copies et d'être repris le lendemain dans un feedback différé. Donc évidemment, ce n'est pas intrinsèquement bien ou mal que selon que c'est immédiat ou différé. À chaque fois, c'est à quelles conditions un feedback immédiat est-il positif, à quelles conditions. C'est pour ça que je dis que ce ne sont que des tiroirs. Il faut voir ce qu'il y a dedans et le décliner de manière assez précise, tiroir par tiroir. Quelle modalité d'étayage? Quel type de coopération? Il faudrait ouvrir tous ces tiroirs. Troisième grand bloc, le bloc motivation. Tout le monde sait, les neurosciences l'ont établi. Ça faisait quelques siècles que tout le monde le savait, mais maintenant, on sait de quelle couleur c'est la motivation, c'est rose. Je veux dire, sur les IRM, ça s'allume en rose. Pour le maître, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il sait que les enfants apprennent d'autant mieux qu'ils sont motivés. Et à partir de là, un abîme de malentendus s'ouvre, parce que à quel prix va-t-on être capable de les motiver? Qu'est-ce qu'on va appeler motivation? Et vous voyez bien toutes les dérives autour de l'habillage fun d'un certain nombre de tâches, pour que ça soit attractif. Sauf que pas de peau, les tâches très fun et très attractives, elles sont distrayantes au sens où elles éloignent l'attention des enfants du cœur de cible. Et là où vous faisiez de la correspondance entre un nombre de lions et un nombre de plots, parce que vous faisiez des éléments logiques de mise en correspondance, les enfants, puisque ça se passe dans un cirque dans lequel il y a un dompteur entre le lion et les plots avec des moustaches, s'intéressent aux moustaches du dompteur ou à l'écuyère qui était au deuxième plan. Les uns traitent des mathématiques sur de la correspondance terme à terme, les autres s'intéressent à l'habillage du problème avec les moustaches du dompteur. À la fin, ils n'ont pas porté leur attention sur les mêmes dimensions, ils n'en ont pas compris ni retenu la même chose, etc. Donc évidemment que tout ça nous ouvre à la fois des renforcements de nos intuitions et de magnifiques impasses lorsqu'on essaye de prendre chacun de ces résultats de recherche comme autant de slogans de ce qu'il est bon de faire. Donc les notions centrales sont bien des notions d'engagement, dans quelle mesure les élèves sont engagés dans les tâches, et il faut dire de ce point de vue-là, les profs ont des compétences inégales à enrôler et à maintenir les élèves dans les tâches. On a des données magnifiques, là, dans notre dernière étude, qui montrent que, quel que soit le type de tâche, les élèves apprennent mieux dans les tâches dans lesquelles ils sont fortement engagés que dans les tâches dans lesquelles ils sont peu engagés. Alors, le « quel que soit le type de tâche », c'est quand même pas tout à fait n'importe quoi, mais c'est à condition que les tâches, elles aient quand même une certaine pertinence. Mais il y a des moments où la tâche, elle peut être géniale. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les élèves, ils apprennent d'autant mieux qu'ils sont au boulot. Vous allez me dire, c'était bien la peine de faire autant d'années d'études pour en arriver là. Mais disons que, voilà, on va peut-être savoir ça de manière un peu plus précise et peut-être comprendre un petit peu mieux, voilà, ce qu'intuitivement... Mais ça va nous donner des cibles peut-être plus claires. Nous, on s'en sert beaucoup pour essayer de pister ce que seraient des maladresses de débutants ou des habiletés d'experts qu'on saurait mieux décrire si on les cherche autour de cette question. Qu'est-ce qui, au fond, dans cette séance, fait que les élèves sont à ce point bien enrôlés et maintenus dans la tâche? Prenez ça comme question et essayez de prendre un truc dont vous dites « ça tourne » et de le décrire sous l'angle de quelles sont les caractéristiques, quels sont les savoir-faire qui sont à l'œuvre, qui fait que les gamins sont enrôlés et maintenus dans l'attention. Quels sont les mille et une trucs et ficelles? Quels sont les éléments de planification des tâches qui favorisent? Qu'est-ce qui fait, deuxième rubrique très très importante, que l'attention des élèves est conjointement orientée sur le bon objet? Vous êtes en train d'expliquer quelque chose en maternelle. Et vous avez un album, et vous expliquez au petit que le loup, il est bien en train de manger. Sauf qu'au moment où je suis en train de manger, vous, vous l'avez, mais vous, vous ne l'avez plus. D'accord ? Donc déjà, au niveau matériel, l'attention, elle ne peut pas être partagée, parce que le référent n'est plus partagé. Ce qui veut dire que si vous ne l'avez pas mis en mémoire au moment où c'est passé verbalement de manière éphémère, vous n'avez plus de possibilité de raccrocher l'information N plus 1 à l'information N. Comment est-ce que vous vous y prenez techniquement pour vous assurer que les élèves sont en train de faire attention au bon objet, celui qui est en train d'être compté, au bon moment? Voilà. Ça, c'est du savoir-faire, c'est des savoir-faire de métier. On a pas mal de travaux qui montrent que ça se joue là. Alors, on sait que ça se joue là depuis tout petit, dans l'apprentissage du langage chez les petits-enfants, cette attention conjointe dans les travaux de Brunner, on sait que c'est fondamental. Donc, il y a des enfants qui sont mieux préparés que d'autres à être capables d'être attentifs aux bonnes choses au bon moment. Est-ce que la pédagogie va guider leur possibilité de centrer leur attention sur les bonnes choses au bon moment? Est-ce qu'on va se donner des conditions matérielles? Est-ce qu'on va finir par les acheter, ces vidéoprojecteurs qui marchent avec des grandes images, qui permettent à un groupe d'enfants de voir en même temps la même chose et pas ces petites images qui font que circuler comme ça, etc., etc. L'autorégulation émotionnelle mériterait à elle toute seule d'ouvrir le tiroir. C'est toute cette capacité qu'ont les enfants justement à réguler leurs propres investissements en ayant conscience, en sachant qu'ils sont en train de décrocher, en sachant régler leur propre attention, en sachant régler leurs anticipations, leurs peurs, etc. Il faudrait que je rentre dans le détail, encore une fois. J'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti. Je vais donc juste vous dire, voilà comment on travaille. La notion centrale qui a à voir d'ailleurs avec la précédente, c'est la notion du sentiment de compétence. On sait que les élèves sont d'autant plus persévérants qu'ils sont persuadés, avant de faire un certain nombre de choses, qu'ils peuvent y arriver. Et donc, comment est-ce qu'on construit ce sentiment de compétence en cassant l'idée qu'il y aurait des enfants qui seraient sécures et d'autres insécures, au sens qu'il y en aurait qui auraient confiance en eux et d'autres qui n'auraient pas confiance en eux, d'une manière générale, dans la vie, partout, en toutes circonstances, avec cette idée qu'il y aurait des enfants dont il faudrait d'abord reconstituer de l'estime d'eux-mêmes. Vous voyez, l'impasse psychosociale, c'est celle-là. Les enfants manquent d'estime d'eux-mêmes. On va faire un module reconstruction de l'estime de soi. Et quand ils sauront regagner de l'estime d'eux-mêmes, ils pourront la transférer sur les mathématiques. Ça ne marche pas, scientifiquement. D'accord ? L'estime de soi, ça ne se reconstruit pas en soi. Ça se reconstruit localement, bloc de compétences par bloc de compétences. Donc ce n'est pas vrai. Être aventureux sur la poutre et prendre le risque de traverser sans se faire manger par la mare de crocodiles qui sont dessous. Parce que vous savez bien que quand on traverse la poutre à la colle maternelle, il y a des tapis, c'est des crocodiles, donc il ne faut pas tomber. Donc on est courageux, on prend sur soi, etc. Et on pense, quand on fait ça, qu'on construit de la sécurité et de la confiance en soi qui va se transférer sur la lecture en prenant le risque de faire une hypothèse face aux mots inconnus. C'est pas vrai. Ça marche pas. Cette vision-là d'un transfert lointain à ce niveau-là de métacompétence sociale, ça ne marche pas. C'est parce que sur la lecture, vous allez avoir des modalités de résolution dans le pas à pas qui fait que l'enfant aura ce qu'il faut pour réaliser ce que vous lui proposez et qu'il pourra savoir que il va y arriver, c'est ça qui va se passer. Ouais ! Voilà. Le geste pédagogique qu'on va évidemment rechercher, le mot-clé du côté de la maîtresse, c'est bravo, et le geste pédagogique, c'est ouais. Et le ouais, ça veut dire « Ouais, j'y arrive comme je pensais que j'allais y arriver. » D'accord ? Qu'est-ce que vous avez fait qui a permis de construire ce sentiment de compétence ? On voit bien que ça joue beaucoup sur l'aspect démocratisant des pédagogies. Il y a des maîtres qui savent parfaitement construire ça avec des enfants qui sont de plus en plus persévérants parce qu'on leur laisse le temps de devenir champions du monde de quelque chose. D'autres, à peine ont-ils commencé à comprendre qu'on les emmène très vite deux étages plus loin, en leur montrant que tu croyais avoir compris, mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, tu vois ce qui t'attend. Et oui, mais dans le bien plus compliqué que ça, il y a, mais à quoi bon faire l'effort si je n'arrive pas à m'assurer sur le fait que ça, je... Donc il y a évidemment beaucoup de travaux autour de comment ça se construit ce sentiment de compétence. Et encore une fois, sortez-vous de l'idée, si vous l'aviez encore, que c'est une caractéristique intrinsèque d'un sujet, c'est une construction sociale et c'est une construction qui se reconstruit et déconstruit dans nos épisodes pédagogiques et didactiques au quotidien. Et on peut avoir des enfants qui sont complètement Est-ce que vous, vous avez confiance de, en vous-même ? Ça dépend. Sur le plan amoureux, c'est... Mais sur le plan du bricolage, ben oui, vous voyez, je veux dire, c'est quoi ? Donc, sortons de ces grands organisateurs qui deviennent stériles lorsqu'on se met à dire « on va pas leur apprendre à lire, on va travailler le statut de lecteur ». Et quand ils auront construit un bon statut de lecteur, on pourra commencer à leur apprendre à lire. Vous voyez le genre d'errement ? Ça, c'est des trucs de... Dans l'ancien temps, dans les petites classes. Mais voilà, on va leur redonner confiance en eux-mêmes. Et après 15 jours centrés sur la confiance en eux-mêmes, on va pouvoir commencer les mathématiques. C'est pas raisonnable, vous êtes d'accord? Vous le saviez. Quatrième boîte, tout ce qui tourne autour de l'explicitation, parce qu'encore une fois, là, on a beaucoup, beaucoup de travaux de recherche qui montrent que une partie des enfants apprennent très bien parce qu'en fait, ils maîtrisent très, très bien les règles du jeu implicite, du jeu scolaire. Et qui savent très bien ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'apprendre. Ils savent très bien qu'on est en train de colorier des cartes de géographie, mais que l'important, c'est de comprendre la logique de la légende. Et que demain, dans le contrôle d'évaluation, ça ne sera pas la même carte de géographie, ça sera une autre, et il faudra transférer ce qu'on a compris de la légende. Sauf que, Amidou, lui, la maîtresse, elle lui dit « vous apprenez bien la leçon », il a appris par cœur la carte de géographie qu'on vient de colorier. Pourtant, la maîtresse, elle avait dit, hein, l'important, c'est la légende. Mais on avait fait cette carte de géographie. N'ayant pas compris ce qui était en jeu sur le plan cognitif, le lendemain, quand arrive la carte de géographie d'un autre pays, il est outré, il s'indigne, il regarde ses camarades. Mais que fait le professeur ? Elle nous interroge sur un truc qu'elle ne nous a pas appris. Et il voit que les autres, ils commencent sans coup faire rire à faire leur coloriage. Notamment les petits Chinois du quartier qui sont très très bons scolairement et qui font très très bien le coloriage. Et il se construit, Amidou, l'idée... On a des travaux de sociologie, des références, des articles, des recherches là-dessus. Hein. Il se construit l'idée qu'il y a des lits d'initiés. Et que la maîtresse, elle a dit aux petits Chinois, parce que la maîtresse, elle préfère les petits Chinois aux petits Africains, elle leur a dit que la carte à apprendre, c'était pas la carte de France qu'on avait coloriée, c'était la carte du... Alors qu'en fait, elle avait dit à tout le monde, sauf qu'elle l'avait dit à tout le monde, mais qu'elle n'avait pas dit ce que c'était apprendre la leçon le soir. Elle n'avait pas du tout raisonné sur « qu'est-ce que je vais évaluer demain ?» en faisant un contrôle de géographie, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de gestes professionnels qui sont bien des gestes d'explicitation de ce qui est à apprendre et pas simplement à faire, qui sont en jeu. Voilà. Donc on a mille et un travaux qui, loin de l'enseignement, de l'instruction directe que je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure et qui a monopolisé le terme d'enseignement explicite, sont bien un qualificatif. Est-ce que l'enseignement qui est dispensé est suffisamment explicite pour que les élèves ne soient pas engagés dans des malentendus socio-cognitifs. Là, beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de travaux de sociodidactique, etc., qui éclairent ces notions-là, et qui vont tous vers des notions de psycho, on reboucle vers de la psycho, autour de la notion de l'autorégulation des élèves qui peuvent réguler eux-mêmes leurs stratégies et leurs procédures. Comment permettons à des enfants d'être autonomes? Non pas être autonome au sens social de savoir se débrouiller dans le quartier, mais être autonome dans la gestion des tâches qui sont les tâches scolaires. Là aussi, tiroir fondamental, très structurant, très en rapport avec les questions de démocratisation de l'école qu'il faut donc ouvrir. Et le dernier, qui est le plus mal documenté, c'est le tiroir différenciation, avec beaucoup d'interrogations sur à quel moment il faut différencier plutôt en changeant des tâches, ou au contraire, en gardant les mêmes tâches, mais en les accompagnant d'un étayage différent. À quel moment il faut différencier en jouant sur les groupements d'élèves, collectifs, individuels, petits groupes? À quel moment on a intérêt à avoir des groupes homogènes? Ben oui. Le politiquement correct, c'est l'hétérogénéité comme valeur. Ben non, il y a des moments où on a intérêt à avoir des groupes homogènes. À quand? Dans quelles circonstances? À quel moment ça stigmatise les enfants? À quel moment, au contraire, ça les aide? À quel moment on fabrique les groupes de telle ou telle manière? C'est la question des publics. Voilà. Bon. On a là-dessus beaucoup plus de questions qu'on a de réponses, au passage, au point que le CNESCO lance sur ce sujet-là une conférence de consensus au mois de mars, et qu'on est tellement dans la panade que sur Internet, sur le site du CNESCO, vous êtes tous sollicités, non seulement pour être membre du jury, mais surtout pour dire ce que vous vous entendez par différenciation, ce que vous vous faites, ce qui vous paraît important, quelles sont les questions. Autrement dit, tout le monde, depuis 20 ou 30 ans, fait l'apologie de la différenciation. Les rares travaux de recherche qu'on a sont totalement contradictoires. Tantôt, ils parlent de démocratisation, tantôt, ils parlent de renforcement des inégalités. parce qu'ils ne sont pas assez précis sur à quelles conditions ça joue un rôle compensatoire, et qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu mettre de l'ordre à travers cette conférence de consensus. Et rien que les documentalistes, moi j'ai travaillé avec les documentalistes qui font la veille scientifique, qui sont en train de faire la bibliographie sur ce sujet-là, elles s'arrachent les cheveux, tellement c'est contradictoire, complexe, il y en a dans tous les coins, et en fait, il y a très peu de résultats probants. Donc, ça ne nous empêche pas de continuer à avoir un certain nombre de convictions, mais c'est sans doute là-dessus qu'on aura le moins de données de recherche, on va dire, qui étayent le plus solidement les données qu'on a, ce qui ne veut pas dire qu'il faut lâcher le morceau. Parce que la question qui est posée, on voit bien qu'elle est vitale. Mais la manière d'y répondre, elle est horriblement compliquée. Voilà. À quoi ça sert tout ça? Et c'est mes deux mots de conclusion. Nous, deux usages, essayer de faire une analyse systémique des organisateurs de l'activité pour essayer de comprendre sur quoi ça repose l'expertise, probablement sur quelque chose qui est au carrefour de ces 50 traits. Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près rien dit. Mais ça nous aide à décomposer une analyse, une activité enseignante hyper complexe, et en la décomposant, peut-être la rendre plus énonçable, plus explicite, et du coup, plus transmissible. Ça, c'est la première fonction, dans une perspective de didactique professionnelle. Et la deuxième fonction, que les étudiants qu'on a en formation de formateurs utilisent beaucoup, c'est ça les aide, eux, à activer plein de questions, qui les aident à regarder l'activité des jeunes qu'ils tutorent, et à partir de là, ils font un peu des inventaires des principales pistes sur lesquelles il faudrait attirer l'attention des jeunes, comment guider leur propre réflexion, quels apports de connaissances faire, quels conseils donner, et surtout d'arriver très vite à une question de hiérarchisation, c'est-à-dire si tout ça en fait est convoqué, quelles sont les dimensions qui déterminent les autres. Parce qu'on peut faire des flèches partout, mais il y a des choses qui ont comme conséquence d'en modifier d'autres. Donc dès qu'on se met à raisonner de manière systémique et qu'on cherche un peu des relations de cause à effet, on s'aperçoit que tout n'est pas au même plan, et que peut-être telle réflexion sur le choix de tâche, accompagnée de telle réflexion sur la manière d'engager, et telle réflexion sur l'explicitation, va suffire à tenir le fil, et que c'est pas la peine de faire des leçons de morale sur l'autorité. L'autorité était une conséquence, c'était pas la cause. Par exemple. Et là, évidemment, c'est tout le boulot, après, du formateur, de remettre en musique ces différents critères et d'essayer de les hiérarchiser pour conduire la logique des conseils.